autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation pour nous interroger sur le temps. Pas le temps qu'il fait, mais le temps qui passe, ou pas, dans la durée. En devenir, le temps serait-il une illusion ? De quoi parle-t-on vraiment quand on parle du temps ? Pourquoi n'est-il pas le même pour tous ? Question philosophique, scientifique, métaphysique, psychologique ? Objectivement ou subjectivement, comment prendre la mesure du temps ? Regard croisé sur tous les paradoxes du temps avec nos invités, le physicien et philosophe Étienne Klein et la professeure en psychologie Sylvie Droit-Volet, autour de la question « Pourquoi tant de temps ?» Bienvenue ici et maintenant. Bonjour Sylvie Droit-Volet.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu Auvergne à Clermont-Ferrand. Bonjour Étienne Klein.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en direct avec nous ici à ICI pour nous interroger en temps universel sur les paradoxes du temps. C'est votre sujet de recherche à tous les deux. Étienne Klein, vous êtes physicien et philosophe. Vous dirigez OCEA, le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière. Auteur de nombreux ouvrages. Le dernier en date, Matière à contredire, vient de paraître en poche chez Flammarion. Vous avez consacré, Étienne Klein, plusieurs essais au temps. Le temps qui passe, point d'interrogation, chrono sous les tactiques du temps, le facteur temps ne sonne jamais deux fois. Pourquoi le temps, son cours et sa flèche est un cas de conscience ? Je vous cite pour le philosophe et physicien que vous êtes.
Oui, un cas de conscience, c'est presque un jeu de mots. En fait, on peut penser, d'ailleurs, certains systèmes philosophiques l'ont envisagé dès Saint-Augustin, par exemple, au 4e siècle après Jésus-Christ, que le temps passe dans l'âme, comme il disait, c'est-à-dire est produit par la conscience. Le temps est une production que nous autres sujets humains projetons sur le monde. D'autres philosophes par la suite ont repris cette idée, je pense à Kant, à Husserl. Donc l'idée c'est que le temps, et pas simplement sa perception, mais aussi son existence, a à voir avec la conscience. Simplement quand on prend cette hypothèse au sérieux, on doit affronter une difficulté qui elle vient des physiciens qui ont montré que l'univers a au moins 13,7 milliards d'années, que les sujets que nous sommes, les humains, disons, n'y sont présents que depuis 2 ou 3 millions d'années, ce qui montre que finalement l'univers a passé le plus clair de son temps sans nous.
Ce qui veut dire que si, son temps.
Ça veut dire que si le temps a besoin d'un sujet ou de la conscience d'un sujet pour passer, comment a-t-il pu passer avant que le sujet apparaisse ? Ça, c'est un paradoxe sérieux qui s'appelle le paradoxe de l'ancestralité, qui vient non pas critiquer ou forcément obliger à abandonner les théories qui font dépendre le temps de la conscience, mais qui sollicite leur avis sur la question.
Le temps est déroutant, alors pas seulement pour vous et pour nous, mais aussi pour les psychologues. Sylvie Droit-Volet, vous êtes professeure en psychologie à l'université de Clermont-Auvergne, à Clermont-Ferrand, où vous menez vos recherches au sein du laboratoire CNRS de psychologie sociale et cognitive sur la perception du temps au cours du développement chez l'enfant, puis chez l'adulte et le vieillard. Vous avez publié de nombreux articles sur le temps psychologique. On peut citer dans le numéro spécial que le magazine pour la science a consacré au paradoxe du temps, prendre la mesure du temps. Alors comment justement, Sylvie Droit-Volet, prenons-nous la mesure du temps ? Nous avons des horloges internes, hein, vous nous l'expliquez et vous nous l'expliquerez, mais nous n'avons pas, dites-vous encore, d'organes sensoriels de la perception du temps. C'est forcément subjectif ?
Alors, ce qui compte important, c'est de définir exactement ce qu'on a entendu par temps, par temps d'un point de vue psychologique. Certes, on n'a pas d'organes subjectifs, d'organes nous permettant d'évaluer la durée en tant que telle. On n'a pas de sens comme l'audition nous permettant d'entendre. On n'a pas de sens du temps comme la perception nous permettant de voir. Mais néanmoins, il y a plusieurs études qui ont démontré qu'on était capable d'évaluer avec extrêmement de précision des durées relativement courtes. Et du même coup, les chercheurs ont supposé que notre cerveau devait être doté d'un système, d'une certaine forme d'horloge interne, nous permettant de traiter de façon purement automatique des durées.
Donc on est câblé
pour... Si on n'a pas de sens, temporel, de système sensoriel nous permettant de traiter le temps, nous permettant de traiter des durées, notre cerveau, conçu par de nombreux oscillateurs temporels, est capable de traiter les durées dans la mesure où il fait l'expérience répétée des durées associées à un événement donné. Donc, d'une certaine façon, on possède une horloge interne, un sens interne de perception du temps.
Mais ce sens interne, on va y venir, hein, il évolue un peu au cours du temps, donc nous voilà bien dans tous les paradoxes du temps. Autour de la question pourquoi tant de temps différents et comment en parler justement, piste de réponse et surtout de questions ouvertes dans un documentaire que vous avez co-écrit Étienne Klein avec un autre éminent physicien, Marc Lachaise-Rey, Quel temps font-ils, réalisé par Hervé Lelièvre.
Ah, te voilà. Je commençais à trouver le temps long.
Le temps ne peut pas être long. Ni court d'ailleurs. Il est ce qu'il est en temps, comme toi.
Je voulais dire que le temps passe lentement lorsque je t'attends.
C'est gentil. Mais ce que je voulais dire, c'est que le temps passe toujours de la même manière.
Mais je ne suis pas d'accord.
Si, le temps des montres passe toujours de la même manière.
Tu vois bien que le temps ressenti ne s'écoule pas toujours de la même manière. Il n'est pas uniforme comme le temps qu'indiquent nos montres.
Personne ne sait vraiment ce que c'est, le temps.
Pourtant, tout le monde sait de quoi on parle quand on parle du temps.
C'est un piège, le mot « temps » ne dit pratiquement rien de la chose qu'il désigne.
Parce que vous pouvez être compliqué, vous les jeunes. Non, je...
Bah vas-y, donne-moi une définition.
Bon, bah c'est facile, j'en ai au moins trois. Tiens, un. Le temps, c'est ce qui passe quand rien ne se passe. Deux. Le temps, c'est ce qui fait que tout se fait ou se défait. Trois. Le temps, c'est l'ordre des choses qui se succèdent.
Un peu facile tout ça. Moi aussi je peux le faire. Dire par exemple que le temps c'est le devenir en train de devenir. Bien, c'est encore plus drôle que le temps est le moyen le plus commode qu'a trouvé la nature pour que tout ne se passe pas d'un seul coup. Tu vois bien que toutes ces expressions contiennent déjà l'idée du temps.
Comment parler du temps? Comment le définir? Sylvie Droit-Volet nous a donné une forme de définition du temps psychologique. Le temps, pour le physicien que vous êtes, Étienne Klein, on peut en donner une définition?
Et ben justement, c'est ça la grande difficulté, c'est que depuis Newton, disons, après une piste ouverte par Galilée, le temps est devenu une variable mathématique. C'est le paramètre petit t qu'on trouve dans les équations de la physique classique et qui ensuite se retrouve dans les révolutions de la physique qui se sont produites au 20e siècle. Et du coup, c'est une variable mathématique. Comment la définir? À quoi l'associer? C'est toute la question parce que dans le langage courant, le mot temps, il est utilisé pour dire toutes sortes de choses différentes. Par exemple, la durée, on en a parlé, la succession, la causalité, le devenir, le changement, la vitesse, l'accélération.
Tout ça, c'est
l'ordre temporel,
temps, ouais.
Ça. Et
on utilise le même terme.
Oui, voilà. Et je pense que cette polysémie du mot temps empêche de bien le penser et aussi rend difficile les discussions transdisciplinaires entre physiciens, psychologues, biologistes, etc. Parce que chacun s'est approprié un sens qui n'a pas toujours le réflexe de préciser quand il discute avec d'autres communautés qui ont choisi un autre sens.
Donc il faudrait s'entendre déjà tous les deux, vous Étienne Klein et vous Sylvie Droit-Volet, sur ce qu'on entend par le temps. Est-ce qu'on peut dire qu'en tant que physicien, vous êtes plus sur le temps objectif, même si c'est parfois une illusion. Et vous, Sylvie Droit-Volet, sur le temps subjectif?
Non, pas réellement. D'abord, je ne sais pas réellement si on peut s'entendre. C'est difficile, hein, vraiment, cette discussion entre disciplines. Par exemple, Étienne Klein, dont je connais les travaux, il va souvent d'université à université en disant « qui a autorité pour parler du temps ?» Je ne peux pas répondre à cette question. Qui a autorité pour parler du temps? Est-ce que c'est les physiciens qui ont autorité pour parler du temps? Oui, certainement, avec leurs théories qui permettent de définir ce qu'est le temps ou ce que n'est pas le temps. Mais en même temps, je pense que tout le monde est légitime pour parler du temps. Autant les physiciens, les philosophes, les sociologues, les historiens, les psychologues, dans la mesure, comme dit bien Étienne Klein, que l'on arrive clairement à définir ce qu'on entend par temps. Parce qu'en fait, il n'y a pas une seule forme de temps. Le temps unique n'existe pas. Mais il y a de multiples formes de temps et chaque forme de temps va impliquer des mécanismes complètement différents. J'ai défini à un moment donné, vous m'avez parlé de sens du temps,
oui.
Donc j'ai parler de la durée, de la perception de la durée de quelques millisecondes, de quelques secondes, de stimulus ou d'événements. Mais cette forme de perception du temps implique des mécanismes tels qu'une horloge interne qui vont différer complètement du sentiment du passage du temps, le sentiment que le temps passe vite ou moins vite.
Ça, cette c'est fois, encore ça une autre mesure du temps.
Des mécanismes de conscience. Et j'en parle, il y a de multiples formes de temps et le psychologue a pour charge de regarder quels sont les mécanismes psychologiques qui permettent d'expliquer, de rendre compte de ces différentes formes de perception du temps, de jugement du temps, de conduite de l'homme face au temps.
Autour de la question pourquoi tant de temps, Étienne Klein, vous vouliez réagir?
Moi je pense qu'en effet le mot temps est devenu un peu une victime d'une fixité dans le langage. C'est-à-dire que c'est un très vieux mot, mais ce qu'on met derrière n'a cessé d'évoluer sans qu'on ajuste toujours ce qu'on dit à ce qu'on sait. Alors en effet, j'ai donné des conférences qui s'intitulaient « Qui a autorité pour parler du temps ?» C'est un titre qui m'a paru un peu arrogant, donc je l'ai changé en « Qui est légitime à parler du temps ?» Et j'essaie de montrer que tout le monde est légitime, d'ailleurs tout le monde en parle, d'une certaine façon, mais qu'après il y a des confusions qui viennent du vocabulaire. Et du coup, avec un collègue qui s'appelle Vincent Bontemps, qui est philosophe, on va organiser en 2020, en septembre 2020, un colloque qui s'appelle « Les autres noms du temps » où on invitera des gens venant de toutes les disciplines pour nous expliquer ce qu'elles savent du temps, mais aussi qu'elles fassent l'effort de regarder s'il n'existerait pas un autre mot que le mot « temps » qu'elles pourraient utiliser à la place du mot « temps » et qui dirait plus précisément ce qu'elles ont à dire. Par exemple, là, la perception des durées, c'est pas exactement la même chose que le temps.
Bien sûr.
Et donc, il y a d'abord une première question, c'est est-ce que notre expérience humaine du temps, dans nos vies, à tous les âges que nous traversons, nous renseigne sur la nature du temps, oui ou non? Autrement dit, est-ce que la perception, la subjectivité de la perception est un indicateur de la nature du temps ou pas? Ça, c'est une première question. Et personne n'a la réponse a priori. Il faut discuter. Et puis, on peut comme ça trouver d'autres exemples qui font que chacun est invité à réfléchir sur son propre savoir et surtout la façon qu'il a de le dire.
La façon qu'il y a de le dire, Sylvie Droit-Volet, pour vous, le temps dont on parle, là, vous l'avez dit, il y a la durée, il y a la perception, le sentiment qu'on en a, ça serait déjà deux temps différents.
Temps différents. Alors, c'est deux temps différents, parce que d'un côté, on peut avoir un traitement automatique des durées, comme d'un autre côté, ça peut être une analyse introspective de soi, d'un contenu, d'un empan temporel. Et du même coup, ça va impliquer des mécanismes de conscience qui sont totalement différents. Et puis en plus, ça va vraiment dépendre des situations à chaque fois que l'on implique. Et le temps va être extrêmement variable en fonction des conditions qu'on évoque.
Et en fonction de l'âge qu'on a, alors on va démarrer dans l'enfance, hein. Dès l'enfance, justement, les enfants prennent la mesure du temps? Est-ce qu'ils l'apprennent déjà, la mesure du temps?
Alors, d'abord, le bébé, dès son plus jeune enfance, il va être confronté à la durée. Il va être confronté à des attentes. Quand, par exemple, il veut son biberon, il va pleurer et il est obligé d'attendre que sa mère vienne. Quand on lui met le mobile au-dessus du lit, il voit le mobile qui tourne sans cesse, qui met le même temps. Et dès qu'il sent que ça va être la fin du mouvement du mobile, il se met à s'agiter parce qu'il a compris que le mobile allait terminer et il veut faire venir sa mère. Donc, il est confronté à des attentes. Et comme il est confronté à des attentes, il va appréhender des intervalles temporels, il va appréhender des durées d'événements. Toutefois, le jeune enfant, il n'a pas une conscience d'un temps homogène. Il n'a pas de notion de temps, il n'a pas de concept de temps. En fait, il va se créer des connaissances, des durées associées aux événements dont il fait l'expérience. Donc, il va être plongé dans une multitude de temps qui sont constants parce qu'il en fait l'expérience de façon régulière, comme des temps qui peuvent être totalement déformés, qui peuvent être totalement élastiques parce qu'il en subit les variabilités liées à son état émotionnel, liées à son état interne. Et c'est uniquement plus tard, à partir de l'âge de, avec le langage notamment, à partir de l'âge de 5 ans, 6 ans, qu'il va commencer à se construire une notion de temps. Et pour se construire cette notion de temps, c'est-à-dire l'idée d'un temps uniforme, homogène, continu, qui forme en quelque sorte une flèche du temps. Bien entendu, il va l'apprendre par lui-même, mais aussi grâce à ses parents, grâce à la société dans laquelle il va être plongé, on va lui apprendre cette représentation conventionnelle d'un temps homogène.
C'est ce que vous appelez le temps social, la flèche du temps, Étienne Klein. Il y a bien une flèche du temps. Même pour le physicien que vous êtes, le voyage dans le temps n'est pas possible. On peut...
Oui, alors ça c'est compliqué parce que en fait le vrai terme c'est pas flèche du temps, c'est plutôt cours du temps. Le cours du temps, c'est-à-dire le fait que en effet le temps est doté d'une sorte de dynamique qui le fait passer du passé vers le futur, disons. Mais la physique, si on en croit ces équations, nous dit que ce passage du temps qui était réversible ne peut accueillir que des phénomènes réversibles. C'est-à-dire, on a l'impression que tout ce que la physique autorise elle peut aussi, tout ce que la physique autorise à faire, elle autorise aussi qu'on le défasse. Par exemple, n'importe quel système, partant de certaines conditions initiales, va évoluer, atteindre un certain état final plus tard. Et ce que nous dit la physique, c'est que si on laisse le passage du temps continuer, alors le système pourra retrouver dans son futur n'importe quel état qu'il a connu dans son passé. Ce qui n'est évidemment pas ce que montre la vie courante.
Non, et qui n'est pas statique, qui n'est pas notre temps.
Quand vous mettez une goutte d'encre dans un verre d'eau, eh bien, la goutte se disperse et puis l'état final obtenu ne pourra jamais redonner plus tard l'état initial où l'eau et la goutte d'encre étaient séparées. Et donc il y a une sorte de contradiction entre ce que disent les lois physiques qui sont réversibles et puis ce que montre l'expérience. Et ça a agité beaucoup les physiciens dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et on a fini par comprendre que le devenir, c'est-à-dire l'irréversibilité des phénomènes, c'est pas la même chose que le cours du temps.
Donc il y a
et
le cours du temps, distinction. Il y a le devenir, il y a la durée, il y a déjà énormément de temps.
Alors pour le dire simplement, ce qu'on appelle le temps, c'est le cours du temps. Et ce qu'on appelle la flèche du temps, c'est ce qu'on appellerait dans le langage courant le devenir. Le fait que les choses évoluent de façon irréversible. Et c'est tout un problème. Et c'est toujours un problème d'ailleurs de comprendre comment des lois réversibles peuvent expliquer le fait qu'il y ait des phénomènes irréversibles. Et c'est ça qu'on a appelé pendant très longtemps le paradoxe de la flèche du temps. Comment des équations peuvent-elles expliquer ce qu'elles semblent contredire?
Et comment nous humains qui sommes dans le temps, qui sommes de fait soumis au temps, on dit que le temps s'écoule, mais il ne passe pas tant que ça le temps.
Bah, disons qu'il faut, alors là je parle en non spécialiste, mais il me semble qu'il y a des âges de la vie où le temps passe, on prend de l'âge, mais ça n'a pas d'effet sur notre vieillissement. Par exemple, si on regarde les courbes de mortalité publiées par l'INED, l'Institut National des Études Démographiques, on voit que les gens entre 23 ans et 39 ans, évidemment, prennent de l'âge. Tous les ans, ils prennent un an, à cause du temps qui passe. Mais cet âge qu'ils prennent n'augmente pas leur probabilité de mourir dans l'année qui vient, qui est la définition du vieillissement. C'est qu'après 39 ans, que chaque année, on augmente un peu plus sa probabilité de ne pas être présent sur Terre l'année suivante.
Donc on a bien compris, le temps n'est pas le même pour tous. Autour de la question, pourquoi tant de temps? Et pourquoi le temps n'attend pas la valeur des années? Quoique, la preuve avec les Rolling Stones, tout de suite, votre groupe fétiche, Étienne Klein. Time waits for no one.
Satan and pleasure, we watch it fly. Yes.
Stone sur RFI, on ne s'en lasse pas. Time waits for no one. C'est pour vous, Étienne Klein. Le temps n'attend pas. Et le facteur temps ne sonne jamais deux fois.
Écoutez, ils jouent ensemble, les Rolling Stones, depuis 1963. Et ils s'apprêtent à repartir en tournée. Ça veut dire que le temps passe, en effet, mais permet la répétition de certains phénomènes.
Alors, pourquoi le temps qui est toujours là, qui passe, qui ne s'écoule pas vraiment, est-il une énigme, un sujet de recherche aussi pour les physiciens? Avant de vous laisser la réponse, Étienne Klein, je vous soumets la question d'un autre physicien et philosophe que vous connaissez bien, Alexei Greenbaum.
La question que je voudrais vous poser, Étienne Klein, c'est pourquoi y a-t-il le temps pour les grands, mais pas pour les petits? Parce que justement, on parlait d'enfants, mais on peut aussi parler des choses beaucoup plus petites, de particules élémentaires. Le temps se passe-t-il pour ces particules-là de la même manière? Mais non, en physique, on sait que ce n'est pas exactement pareil. Et donc, le temps est bien défini pour les systèmes qui sont statistiques, qui sont très grands. Pourquoi le temps est-il là pour les grands et pas pour les petits? C'est ma question.
Vous auriez la réponse, Étienne Klein?
Mais il me semble que la réponse que je peux apporter à Alexis Greenbaum, que en effet je connais bien, elle tient dans ce que j'ai dit maladroitement tout à l'heure. C'est-à-dire que, en effet, dans le monde microscopique des particules, il n'y a pas d'irréversibilité, il n'y a pas de devenir, il n'y a pas d'évolution des systèmes. Et donc le temps qui se manifeste là est un temps qu'on met dans des équations qu'on appelle réversibles. Or, à notre échelle, rien n'est irréversible. Rien n'est réversible, pardon. Tout est irréversible.
Dès qu'on est grand, qu'on est un grand système ou à notre échelle.
La question que pose Alexis Greenbaum, on pourrait la transformer de la façon suivante. Ou bien les équations qui marchent dans l'infiniment petit sont les bonnes équations. Et c'est à partir d'elles qu'il faut comprendre, malgré ce qu'elles disent, que certains phénomènes peuvent être irréversibles.
C'est-à-dire qu'au fond, le temps serait une illusion, mais qu'il faut...
Ou bien, au contraire, on considère que le devenir... est une chose essentielle, dont les équations doivent directement rendre compte, ce qui veut dire qu'il faut corriger les équations de la microphysique. Et c'est étonnant que, en 2019, on reprenne ainsi un débat qui avait opposé indirectement Parménide et Héraclite, deux philosophes de l'Antiquité grecque.
La Grèce antique, oui.
L'un qui disait « rien ne change », l'autre qui disait « tout est changement ».
Et les deux, et si les deux avaient raison, alors ça c'est le temps des physiciens, jusqu'au temps psychologique des petits et des grands, hein, Sylvie Dora-Volet, puisqu'on a parlé, si j'ose dire, du temps des petits d'hommes, des petits d'humains, qui construisent leur mesure du temps, de manière sociale aussi. Oui. Et ensuite, quand on devient adulte, on en a parlé, puis quand on grandit, quand on vieillit, on n'a pas toujours le même sentiment du temps. Je vais vous laisser répondre à ce sujet, à une autre question soulevée par Caroline Tourbe, notre collègue du magazine Science et Vie.
Pourquoi est-ce que lorsque quelqu'un vieillit, il a l'impression que le temps s'accélère?
Votre réponse qui va être inattendue,
Sylvie Dora-Volet. Tout le monde est convaincu que quand on vieillit, le temps s'accélère. En fait, c'est faux. On a réalisé des expériences avec un professeur en psychologie qui s'appelle John Werdon de l'université de Manchester, où on a interrogé les personnes âgées de plus de 60 ans, ça allait jusqu'à 100 ans, avec une méthode qu'on appelle la méthode d'échantillonnage d'expérience. C'est-à-dire qu'ils avaient un téléphone portable sur eux, et pendant 5 jours, 8 fois par jour, on les appelait pour les interroger sur la vitesse du passage du temps. Est-ce qu'ils avaient le sentiment, à ce moment précis, que le temps allait vite, ou au contraire, allait plus lentement. Et à chaque fois qu'ils devaient répondre à cette question, on leur posait d'autres questions sur qu'est-ce que vous faites actuellement, quel est votre état émotionnel, est-ce que vous vous sentez plutôt heureux, plutôt triste, plutôt éveillé, plutôt calme. Et on s'aperçut que dans ce cadre-là, il n'y a aucun effet d'âge. Ce n'est pas parce qu'on a plus de 60 ans qu'on va ressentir une accélération du temps au quotidien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence d'âge du point de vue du sentiment du passage du temps au quotidien.
C'est-à-dire dans une même journée, alors, les gens âgés n'ont pas l'impression que le temps passe plus vite. Hein, c'est
il ne passe pas plus vite, au contraire. On a étudié des personnes qui âgées de plus de 75 ans et cette fois, le temps ralentit. Mais pourquoi il ralentit? Parce que le sentiment du passage du temps va dépendre de l'état de la personne, de ce qu'elle fait au quotidien. Et les personnes âgées de plus de 75 ans, souvent, malheureusement, certaines étaient déjà en EHPAD, étaient en perte d'autonomie, et dans ces cas-là, elles étaient en perte d'autonomie, des sentiments importants de tristesse, voire parfois une certaine dépression. Et du même coup, lié à cette perte d'autonomie, le fait qu'elles faisaient moins de choses, lié à cet état émotionnel dépressif, elles avaient le sentiment d'un ralentissement du temps.
Et oui, le temps s'éternisait parce qu'elles ne faisaient rien de leur journée. Mais justement, pourquoi est-ce qu'on a l'impression quand même, tout un chacun, nous aussi, moi aussi, je vieillis et j'ai l'impression que ça passe de plus en plus vite.
Donc c'est pas... Oui, mais c'est ce qu'on appelait le paradoxe de nos grands-mères. Le paradoxe de nos grands-mères, c'est qu'au quotidien, finalement, on va voir nos grands-mères, elles se plaignent que les journées sont très longues, puis finalement, quand elles parlent des mois, qui sont normalement constitués de journées, elles disent « Ah, mais qu'est-ce que le mois est passé vite, qu'est-ce que l'année est passée vite ?» Mais en fait, parce qu'elles se situent à deux autres niveaux. Il y a le jugement du passage du temps au quotidien, et puis il y a l'évaluation de sa vie, par rapport au temps qui passe, c'est-à-dire par rapport à la finitude.
Au temps qui reste.
Au temps qui reste. Et on fait le constat à un moment donné en raisonnant, tiens, j'ai déjà 70 ans, il me reste encore combien de temps à vivre, et du même coup, qu'est-ce que le temps est passé vite ? Finalement, c'est d'un point de vue du raisonnement, quand on juge son état dans le cours de la vie, qu'on se dit, mais finalement, le temps passé est très vite. En finalement, ce sentiment du passage du temps qui s'accélère, c'est la prise de conscience que notre mort, peut-être, s'approche de plus en plus vite.
Et oui, on est vraiment là dans tous les paradoxes, dans toutes les ambiguïtés du temps, Étienne Klein, que ça soit le temps psychologique, le temps subjectif, comme le temps des physiciens, comme le temps des philosophes, on parle d'énormément de choses en même temps, et le ressenti et la réalité, là encore, et sont deux choses différentes.
Bon, en effet, si moi j'en juge par les personnes âgées que je connais, le fait d'avoir l'impression que le temps s'accélère est plutôt en effet un jugement rétrospectif.
Exactement.
Parce que la part relative des durées qu'on vit, relativement à toutes celles qu'on a déjà vécues, évidemment, diminue au cours du temps. Mais ça ne correspond pas au sentiment du temps qui passe qu'on peut éprouver quotidiennement. Maintenant, je pense qu'il y a aussi une association que nous faisons entre le passage du temps et puis les phénomènes temporels, c'est-à-dire même entre le temps et le mouvement, par exemple.
C'est-à-dire...
Moi, je me souviens d'un... Alors, je voulais justement interroger Sylvie Droit-Volet là-dessus. Moi, mon fils aîné, quand il avait 3 ou 4 ans, je l'amenais à l'école maternelle, et quand il était en retard, je lui disais « Dépêche-toi, Paul !» Et je me souviens qu'il s'immobilisait, parce qu'il avait l'impression que dès qu'il se mettait à bouger, ça allait accélérer... Enfin, le passage du temps, et que du coup, il sera encore plus en retard.
D'accord, donc s'il ne bougeait plus, il allait arrêter le temps.
C'est pas une loi universelle.
Je crois qu'il voulait plutôt s'opposer à son père.
Plutôt ça, parce que ça, en effet, ça marchait pas du tout avec le second qui n'avait pas du tout ce comportement. Mais j'avais trouvé ça bizarre. Enfin, je l'ai interprété à ma façon, c'est peut-être pas la bonne façon
mais
de comprendre.
Mais ce qui veut dire aussi, Sylvie Droit-Volet, qu'on a chacun, oui, une manière de faire avec ce temps, et à plusieurs échelles à chaque fois.
Mais c'est ça qui est compliqué, parce qu'au niveau psychologique, le temps est élastique. Subjectivement, le temps est
élastique.
On subit des distorsions du temps en permanence.
Mais c'est pour ça qu'on porte
colère,
une montre.
On est truste. Mais c'est bien sûr pour ça qu'on porte une montre. Mais en même temps, on est aussi capable d'estimer précisément certaines durées. Donc c'est ça aussi le paradoxe, c'est qu'on est subjectif du point de vue de l'évaluation du temps, avec toutes les distorsions liées à nos états internes, mais on vit aussi dans un monde homogène, avec des représentations du temps conventionnel. Donc le temps est à la fois subjectif et à la fois objectif et social.
Oui.
On vit donc dans multiples formes de temps.
On vit dans multiples formes.
C'est d'arriver à en faire la synthèse. Quoi.
C'est ça, parce qu'on a tous fait l'expérience aussi, effectivement, de temps qui s'étire énormément. Moi je sais qu'une heure d'émission à l'antenne, le temps n'est pas le même, cette heure-là n'est pas la même que dehors. Si on est heureux, elle peut paraître plus courte ou au contraire plus longue. C'est tout le temps subjectif et objectif, le temps, vous partagez.
Moi, ça, je laisse Sylvie Droit-Volet parler, parce qu'il est évident qu'il y a une subjectivité du rapport au temps. Enfin, chacun l'observe, et d'ailleurs, le temps social est une façon de resynchroniser des comportements individuels qui pourraient se disperser s'il n'y avait pas l'alternance du jour et de la nuit, et s'il n'y avait pas non plus le rappel d'un temps social qui nous est manifesté par toutes sortes de biais, de plus en plus technologiques d'ailleurs. Ouais. Mais en physique, tous les observateurs qui sont dans le même référentiel partagent ce qu'on appelle le même temps propre. Autrement dit, le temps qui leur sert de référence, pour le dire autrement, le temps de leur montre, est le même pour tous les référentiels, tous les observateurs d'un même référentiel. Qu'il s'agisse de Pierre, de Paul ou de Madeleine, ça ne change rien du temps propre de ces trois observateurs, dès lors qu'ils sont dans le même référentiel.
Qui pourrait être notre temps universel, voilà, sur RFI, voilà, pour parler du même référentiel. Voilà.
Mais la théorie d'Einstein nous dit que le temps propre, évidemment, n'est pas le même pour tous les observateurs, dès lors qu'ils sont en mouvement les uns par rapport aux autres.
Oui.
Et donc ces temps propres, dès lors qu'ils appartiennent à des référentiels en mouvement relatif, se désynchronisent.
Autour de la question pourquoi tant de temps, on continue de s'interroger sur tous les paradoxes du temps, celui qu'on vit, celui qu'on perçoit dans notre espace-temps, avec un nouvel éclairage, c'est celui du paléontologue Francis Duranton, qui dirige le Muséum de Toulouse.
La perception du temps, moi, ça m'évoque le poème de Ronsard, en fait. Tout de suite, mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil n'a point perdu. Voilà, là, cette notion de temps, c'est ça. Le temps n'est pas le même pour tout le monde. Le temps de la mouche, c'est pas le temps de l'homme. Et pour les roses, le jardinier semble éternel. Et moi, c'est ce qui me plaît dans ce paradoxe du temps. Au-delà de ces questions d'espace-temps qui peuvent nous-mêmes nous projeter à des années-lumière, moi, ce temps, c'est ce qui m'intéresse. J'aimerais aujourd'hui être un astronome qui se situe à 200 millions d'années-lumière et qui regarde la Terre d'aujourd'hui avec des capacités optiques extraordinaires pour voir si tout ce que nous, paléontologues, on imagine du peuplement de la Terre à cette époque, pour voir si c'est vrai. Le temps, c'est peut-être un des plus grands paradoxes à résoudre.
Le temps, un des plus grands paradoxes à résoudre. Vous êtes d'accord, Étienne Klein?
Moi, je ne sais pas si on peut établir une hiérarchie de la gravité des paradoxes. Hein. Il y a du monde au balcon. Et donc, il faut... En tout cas, c'est un gros paradoxe, notamment par le fait que la physique d'aujourd'hui s'appuie sur deux théories, la physique quantique qui décrit les particules, et puis la théorie d'Einstein qu'on appelle la relativité générale qui décrit la gravitation. Et ces deux théories s'appuient sur des espaces-temps complètement différents, qui n'ont pas le même statut, et on a le plus grand mal à vouloir ou à tenter de les unifier pour décrire ce qui se passait dans l'univers primordial. Donc on est pris comme ça, en effet, dans des paradoxes par le fait que on ébauche des théories, on teste des hypothèses, on écrit des équations, on construit des formalismes mathématiques, mais pour dire dans ce formalisme, il y a le temps qui prend cette forme, il faut déjà savoir ce qu'est le temps. Autrement dit,
pour comme on l'a bien compris, c'est impossible à définir le temps.
Pour le reconnaître dans un jeu d'équations, il faut déjà le connaître, avoir préalablement dit quelles sont ses propriétés les plus importantes, pour voir s'il y a une correspondance entre ce qu'on pense du temps et puis ce que le formalisme nous propose. Et je pense que ce travail de sémantique, on en a déjà parlé au début de l'émission, mais il est absolument fondamental, sans quoi on est sûr, en effet, on ne sait plus très bien de quoi on parle.
Donc s'entendre sur le même temps, Sylvie Droit-Volet, pour vous aussi, c'est important de travailler sur le temps, ce temps psychologique, qu'est-ce que ça dit
de nous ? C'est temps psychologique.
Oui, vous avez raison, c'est au pluriel, hein, absolument. Oui, c'est ça, sur ces différents temps psychologiques. Ça permet de ça dit quoi de nous ?
Ben c'est fondamental, parce que notre cerveau, c'est une véritable machine à traiter le temps. Parce qu'on vit dans un environnement qui est temporel. On vit dans un flux continu d'informations qui sont présentées de façon dynamique. Notre monde est temporel. Le flux d'informations est temporel. Donc, il faut pouvoir s'adapter à ce flux d'informations dynamique. Et c'est pour ça que notre cerveau, dès le plus jeune âge, il est conçu pour s'adapter à cet environnement dynamique. Il faut pouvoir prévoir les événements qui vont arriver, prévoir les conséquences des événements. Donc le temps, c'est notre environnement, parce que notre environnement est temporel, et du même coup, c'est quelque chose qui est fondamental. Mais ce que j'ai bien aimé sur le propos tout à l'heure, c'est quelqu'un qui disait « le temps n'est pas le même pour tout le monde ». C'est vrai que le temps n'est pas le même pour tout le monde. Mais notre société, on vit en société, et que finalement cette société nous impose le même temps. Il faut qu'on soit tous à 8 heures au travail, il faut qu'on marche tous au même rythme. Et en fait, c'est la difficulté, c'est que finalement ce temps que nous impose la société, elle fait de la discrimination pour les personnes qui sont pas au même rythme, qui sont peut-être plus de difficultés, qui sont plus lents parce que plus jeunes, plus lents parce que plus âgés. Et que finalement, ces personnes se trouvent en quelque sorte désynchronisées par rapport à ce temps social, un temps social qui met une pression forte et qu'il est difficile de vivre dans ces conditions en tant que telles. Et je trouve que ce serait bien que dans nos sociétés, on réfléchisse un peu plus à ce temps social pour pouvoir respecter les différences interindividuel du point de vue des temps de chacun. Et du reste, vous avez des personnes qui veulent lutter contre cette pression sociale du temps et qui se mettent hors du temps, qui décident de vivre à des rythmes beaucoup plus lents parce que précisément, ils veulent qu'on respecte leur propre temps interne. Et ils ont raison,
on va y venir à cette accélération et à ce temps de plus en plus rapide. Étienne Klein, vous vouliez
parce que la pression sociale dont on parle là, elle n'est pas absolument homogène, au sens où elle ne se manifeste pas de la même façon pour tout le monde. Et moi, j'avais l'impression au contraire que chacun est maintenant libre de personnaliser son rapport au temps, c'est-à-dire d'individualiser son rapport au temps, de sorte qu'on n'est plus jamais synchrone, même dans une famille. L'un regarde son téléphone pendant que l'autre fait autre chose, et c'est très difficile d'être ensemble, c'est-à-dire dans le même temps, précisément parce qu'on a pu individuellement choisir son rapport au temps. Et j'ai l'impression que nous sommes beaucoup plus victimes, entre guillemets, notamment au travail, d'une entropie chronodispersive.
Oula.
Non, je veux dire par là qu'il n'y a pas d'accélération.
Je comprends ce qu'il
veut dire. Pas d'accélération du temps au sens où une seconde dure une seconde, quoi qu'on fasse. Et parler d'une vitesse du temps, ça n'a pas vraiment de sens pour un physicien, puisqu'une vitesse est une dérivée par rapport au temps. Mais j'ai l'impression que, en même temps que nous sommes concentrés sur une tâche, nous arrivent des informations, des contraintes, des messages qui nous dispersent et qui font que notre attention a tendance à se fragmenter, ce qui peut créer un sentiment d'existence renforcée, mais aussi conduire, quand on n'arrive plus à maîtriser la demande, à ce qu'on appelle le burn-out. Et donc j'ai l'impression que quand il y avait un temps social beaucoup plus homogène, dont parle Norbert Elias, qui était sociologue, avec la cloche qui sonne à midi pour que tout le monde aille déjeuner, où les usines embauchent à la même heure et libèrent les travailleurs à la même heure, il n'y avait pas ce problème d'adaptation à ce qui se passe autour de soi.
Comment s'adapter à tous ces temps psychologiques? Comment prendre en compte aussi tous ces temps psychologiques autour de la question pourquoi le temps nous est compté et compte de plus en plus, peut-être aujourd'hui, c'est peut-être bien parce que tout s'accélère dans notre temps présent, ça va trop vite. Big Flo et Oli sur RFI.
Big Flo et Oli, Busta Rhymes.
Je vous préviens, ça va aller vite.
On s'en bat les couilles des études tant qu'on est sur Insta. On peut faire de la pub pour des produits sympas. C'est faire de la thune avec les deux pieds en éventail.
Donc pour 10 000 balles,
donne un peu de toi. Mais descends ta photo, on ne m'intéresse pas.
Regarde,
ouais, voilà comme ça. On s'en fout de ton visage.
Montrez-nous un peu de string.
Vous avez compris les filles, vous avez des produits marketing.
Et vous les gars, faut être costaud. Bien habillé, il faut être costaud. Et s'il parle sur ta sœur,
sur ta mère,
sur ta femme,
sur ta voix,
sur
tes ballons. Et si tu veux te taper plein de filles,
faut pousser la fonte.
T'es encore puceau à 13 piges,
faut tosser la honte.
Faut que t'aimes les ballons, les flingues, les blondes, les balles, les canons et les stops.
Ça va trop vite. Ça va trop vite. Les filles, le fric, les flics, ouais, ça va trop vite. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Ralenti, respire. Respire, ralenti, respire. Respire, j'ai dit ralenti. Respire, respire, ralenti. Respire.
Si t'as du mal à suivre, t'es
bienvenue dans l'équipe.
On est petit, imberbe.
C'est le cirque plein d'air.
On joue plus un verbe.
Et je suis sincère.
On crée une génération de petits qu'on déteste pas.
À peine 7 ans, ça veut déjà qu'on tourne la veste pas.
Perdu sur le net, ils ont déjà maté du porno.
Et le pire, c'est qu'ils sont même pas choqués avec leurs potos.
Qu'un du cul à la télé, à la radio, dans les journaux.
Génération, si t'as pas de boulot, t'as pas de boulot.
C'est la merde dès le plus jeune âge. Ils n'écoutent pas les ça.
Et les parents sont contents.
Ils ne voient pas la pagaille.
Ils s'occupent pas de leur enfant.
Ils ont beaucoup de travail.
Et les défis des filles.
S'imaginent à Philadelphie. Pour enfiler des filles fines comme des filles. Fouillent le profil en wifi. Quand l'école est finie, rêve de la belle villa dans les Fidji comme dans les films.
J'ai rien compris.
Ça va trop vite. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Les filles, le fric, les flics, ouais, ça va trop vite. Ralenti, respire, respire, ralenti, respire, respire, j'ai dit ralenti, respire, respire, ralenti, respire.
Oli, t'es prêt? Allez. Des politiques à la télé qui débattent, des vidéos débat, des coups de poing, des battes, des patates dans la tête, des bavures et des balles qui se perdent dans le bâtiment, c'est devenu banal et des petits qui calent pour que t'arrives. Y'a ce type de mots du balcon pendant la bagarre pour une histoire de parc et de cave et des femmes, tout le monde pète un câble, on peut te braquer, te claquer dans une cave et demander de vider le sac pour quelques dollars. Tout le monde veut la baraque et la belle bagnole, taper des barres au baléar avec sa bande de potes dans cette époque, t'as pas de milliers de billets, t'es pauvre, les poches pliées, t'es humilié pour remonter la cote. Qui t'a tapé le plus petit ou bien braquer la poste, casser la porte s'il y a des morts, ce n'est pas de ta faute, peu importe, t'es prêt à tout pour embarquer la cagnotte, non, non, stop.
Stop, ça va trop vite avec Big Flo et Oli sur RFI. Ça va trop vite aujourd'hui, plus vite qu'hier et moins que demain. C'est encore un des paradoxes du temps, ce qui expliquerait peut-être pourquoi le temps nous est si important aujourd'hui, Sylvie Droit-Volet.
Oui, vraiment, hein. C'est parce que le temps, il est omniprésent. Il est omniprésent, c'est ce qu'on appelle la pression temporelle. Il est omniprésent, alors pourquoi il est omniprésent? C'est parce que peut-être on veut faire trop de choses à la fois, peut-être qu'on est dispersé, effectivement, mais quoi qu'il en soit, le temps se rappelle toujours à nous, avec sur nos montres, sur nos téléphones portables, par nos différentes activités. Peut-être que le temps se rappelle à nous parce qu'on perd du temps en tant que tel. Et du même coup, on subit cette pression, il est omniprésent dans notre conscience et ça nous crée nécessairement un stress, une anxiété pour essayer de gérer les choses dans le temps.
Autour de cette question de l'accélération objective et subjective de notre temps, je propose d'écouter un autre éclairage, c'est celui du sociologue et philosophe allemand Hartmut Rosa, auteur de Remède à l'accélération. Notre reporter Charlie Dupiot l'a rencontré lors de son passage à Paris et lui a expliqué comment le temps rime aujourd'hui avec accélération et comment justement face à cela, il propose, Hartmut Rosa, d'entrer en résonance. On l'écoute.
Je pense que nos sociétés modernes à travers le monde souffrent d'une mauvaise conception du temps et de la façon dont on doit le gérer. On court après le temps, on accélère le monde. Ce n'est pas mauvais en soi, pas toujours. La croissance économique et cette vitesse sont intrinsèquement connectées. Mais cela crée des problèmes dans notre vie quotidienne. On est pressé, on a de plus en plus de to-do list. Cela engendre aussi des problèmes d'ordre écologique dans la façon dont on appréhende la nature. Et cela crée des soucis avec notre démocratie, car elle devient trop lente par rapport à la vitesse des marchés et des médias. Pour moi, il faut repenser notre conception du temps et notre conception d'être dans le monde.
En quoi vous avez été inspiré par le voyage en Chine que vous racontez dans vos entretiens, dans votre livre ?
Pour moi, la Chine est intéressante car dans ce pays, on voit tous les phénomènes liés à l'accélération du monde, à une échelle beaucoup plus importante que ce qu'on peut voir en France, en Europe ou même aux États-Unis. On peut voir la vitesse incroyable des transports, des moyens de communication, de la vie quotidienne. C'est ce voyage qui m'a conduit à mon idée de résonance. C'est l'idée que l'on n'a pas besoin de mettre le monde sous notre contrôle. Nous devons échanger avec le monde. Nous avons une façon dominante de considérer la vie, comme si on la commandait, comme si on était dans le contrôle. Si on veut entrer en résonance, il faut se mettre en position d'écoute, de répondre, accepter de ne pas tout mettre sous son contrôle. La résonance, c'est un moment pendant lequel on se sent ému ou touché par quelque chose dans le monde. Cela peut être un enfant qui s'approche de nous, une musique qu'on entend. Dans un monde où on est en permanence stressé et à court de temps, nous perdons cette capacité d'ouverture à ce genre de moment. Et je ne crois pas que la lenteur soit une valeur en soi. Une ambulance lente, on n'en veut pas. Et on ne veut surtout pas non plus d'une connexion Internet lente. C'est stressant et douloureux. C'est ainsi que je pense la résonance. Je me suis demandé, de quoi parle-t-on quand on parle d'une vie lente ? Et je pense que la réponse est évidente. On ne chérit pas la lenteur en elle-même. Nous cherchons simplement une façon différente de se lier aux gens, à la nature et à nous-mêmes. C'est comme si on élargissait le temps, comme si le passé et le futur étaient intrinsèquement connectés au moment présent. On s'ouvre temporairement. On ne se ferme pas au futur ni au passé. Tous ces temps sont là en moi, bougeant à travers moi. C'est ce mouvement du temps qui nous fait nous sentir vivants. Donc il ne s'agit pas de courir après le temps. On n'a pas à courir après le temps, car le temps coule à travers vous et connecte le passé au futur dans un moment qui fait sens pour vous.
Étienne Klein, vous voulez réagir à ces propos inspirants, résonnants d'Hartmut Rosa ?
Non, mais je suis d'accord avec lui, évidemment, puisque d'ailleurs il est invité au colloque qu'on va organiser en 2020 pour parler des autres noms du temps. C'est vraiment quand on dit « ça va trop vite ». Comme si tout s'accélérait. En fait, tout ne s'accélère pas. Par exemple, les vitesses des transports n'augmentent pas. Les avions d'aujourd'hui ne vont pas plus vite qu'il y a 10 ans.
Les trains vont un peu plus vite.
Mais les voitures pas plus. Elles vont même plutôt moins vite. Donc,
ne s'accélère pas. C'est encore une manière biaisée de regarder le temps.
On a l'impression d'un flux de l'histoire qui impose son rythme et qui fait que chacun d'entre nous se sent en retard par rapport à ce flux. Mais il faut quand même pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui s'ennuient. Pour qui le temps est toujours très long, dans les prisons, il y a des chômeurs, il y a des personnes âgées dans des endroits qui ne sont pas forcément agréables à vivre. Et donc on crée un biais en imaginant que tout le monde court. C'est cette image de la course qui semble être
le rythme... Elle n'est pas pour tout le monde.
Qui donne l'impression d'un rythme vrai du monde et personne n'est adapté à ce rythme. On a l'impression d'être toujours en retard. Par ailleurs, je pense que c'est plutôt la vitesse de l'information et la multiplicité de l'information qui fait cette pression temporelle beaucoup plus que le temps lui-même.
Sylvie Droit-Volet, qu'en pensez-vous ? Vous disiez, vous aussi, que les temps subjectifs de chacun, enfin, on devrait peut-être respecter un peu plus les temps subjectifs de chacun ?
Oui, c'est ça. Mais en fait, ce qu'il dit, je suis aussi d'accord avec ce propos, au niveau de la résonance par rapport au temps. En fait, ce qu'il demande, c'est que finalement, il ne faut pas trop réfléchir au temps. Il faut en fait pas penser au temps. Et quand on ne pense pas au temps, ben, le temps va nous oublier en tant que tel. Et c'est ce qu'il dit, c'est vivre dans le présent. Vivre dans le moment, apprécier les choses simples de la vie. Apprécier les choses simples de la vie, c'est en profiter pleinement. Et du même coup, le temps sort de notre conscience. Et on voit beaucoup, on en a travaillé sur les personnes qui pratiquent la méditation. Qui pratiquent la méditation en se mettant dans des états vraiment de repos, en respirant de façon calme. Et du même coup, quand ils se recentrent sur eux-mêmes, quand ils sont replongés dans le présent, ils oublient totalement le temps. Et du même coup, ils ont un rapport qui change totalement vis-à-vis du temps. En quelque sorte, il faut oublier le temps qui passe. Et quand on oublie le temps qui passe pour profiter des moments présents, c'est là qu'on est heureux et c'est là qu'on arrive à ne plus supporter cette pression, peut-être imaginaire, cette pression sociale du temps.
C'est extrêmement joli ce que vous dites, Sylvie Droit-Volet, c'est que finalement, pour échapper au temps, bien sûr qu'on peut le penser de manière philosophique, scientifique, etc., mais pour échapper au temps, pour en sortir, puisqu'on est tout le temps dedans, faut revenir en soi-même et c'est une manière d'échapper au temps qui passe, malgré tout.
Bien entendu, faut pas regarder nos montres, mettez de côté les montres, les téléphones portables, dès qu'on ouvre le téléphone portable, c'est indiqué le temps qui passe, le temps qui nous reste, le temps... Non, il faut, en quelque sorte, oublier ces montres pour vraiment vivre un temps vécu, un temps simple, le temps présent.
Le temps présent, Étienne Klein, le facteur temps, tiens, vous qui mettez les anagrammes, vous dites que le facteur temps, alors là, je vous cite encore de nos vies, mais là on est dans l'anagramme du facteur temps, c'est l'arbre fumé et c'est le parfum.
Oui, enfin moi j'entends tous ces bons conseils pour bien vivre, parce que j'en ai besoin, je suis un très mauvais gestionnaire
du temps. On a tous besoin,
bah
oui.
Non, je dis simplement que les physiciens, ils ne s'intéressent pas tellement à cela, mais plutôt à la question de la nature du temps. Comment est-ce qu'on le décrit? Comment est-ce qu'il est connecté à l'espace? Comment est-ce qu'il est connecté au contenu matériel de l'univers? C'est là-dessus que portent les questions, mais évidemment, pour chacun doit développer sa philosophie de vie, notamment son rapport au temps, sans se préoccuper de ce que disent les physiciens, parce qu'ils n'ont rien à dire. Il y a simplement une chose intéressante, c'est qu'à la fin de sa vie, Einstein est mort en 1955, et en 1954, il était à Princeton, donc il a reçu la visite d'un de ses amis qui s'appelle Carnap, et Carnap a raconté leur conversation, et Einstein se posait une question qui doit intéresser, je pense, les psychologues. Il disait, mais finalement, c'est bizarre, dans les équations de la physique, l'instant présent, il est décrit comme tous les autres instants. C'est l'instant qui accueille notre présence, mais statutairement, mathématiquement, il a la même forme que les instants du passé ou ceux du futur. Donc rien ne le distingue des autres instants du temps. Et pourtant, pour nous qui vivons, l'instant présent, c'est celui dans lequel on doit, si possible, concentrer notre attention. C'est l'instant où nous sommes, finalement. Et donc, statutairement, il n'est pas du tout comme les autres.
Ah non, c'est notre seule certitude,
donc,
finalement, c'est l'instant présent.
Je me demandais, mais... qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire soit que la physique est incomplète, ou elle ne parvient pas, au sens où elle ne parvient pas à rendre compte de notre expérience du temps, ou bien au contraire, le sentiment que nous avons que l'instant présent est singulier, est lié à notre subjectivité, et n'a aucune consistance physique.
Si le droit volait, je ne vais pas vous demander de conclure là-dessus ou de répondre là-dessus, mais finalement c'est joli de réfléchir au temps et de s'arrêter sur cet instant présent qui est justement hors du temps, hein, hors du passé, hors du futur, bien qu'avec notre imagination, on puisse se balader dans le temps aussi.
Ah oui, non, c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Mais je voudrais aussi revenir sur Einstein. Einstein a énormément influencé les travaux en psychologie. Hein. Il a rencontré Jean Piaget au congrès de Davos. Et après, en psychologie, Jean Piaget, il a essayé en quelque sorte de démontrer sur le plan psychologique ce qu'avait démontré Einstein sur le plan physique. En disant que finalement, le temps n'existait pas en tant que tel, parce que le temps allait dépendre uniquement des mouvements et des vitesses des mouvements. Et avec des situation un peu complexe, il a démontré que c'est uniquement à partir d'un certain âge, vers 8 ans, que l'enfant arrivait à raisonner sur le temps, à coordonner les différentes dimensions, espace, vitesse et temps.
Et bien voilà, on a réussi à
cette rencontre. Suite à cette rencontre, il faut savoir que la psychologie s'est peu intéressée au temps. Elle s'est peu intéressée au temps parce qu'elle disait, finalement, le temps c'est qu'une illusion de l'être humain. On va quand même pas travailler sur ce qui n'est qu'une illusion, ce qui est le fruit d'un esprit simple, celui de l'être humain. Et c'est uniquement plus tard, quand on a à nouveau mis en évidence que l'animal, l'homme, était capable aussi d'évaluer des durées courtes de façon extrêmement précise, qu'on s'est dit, mais finalement, peu importe ce qu'est réellement le temps, tel qu'il est défini, ce qui nous importe, nous, c'est vraiment les différents comportements du temps.
Et comment nous le vivons ? Je vais être obligée de vous arrêter, j'en suis désolée, parce que justement, nous n'avons plus de temps, même si cette phrase n'a pas de sens. Mais je vous remercie infiniment, Sylvie Droit-Volet, d'avoir participé à notre émission sur le temps. Je rappelle, et merci d'avoir été en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu Auvergne à Clermont-Ferrand. Merci à la technique sur place d'ailleurs. Merci Étienne Klein d'être venu en direct partager un peu de votre temps. Le titre de votre dernier essai, Matières à contredire, aux éditions Flammarion. Merci à Hugo Violas et à Caroline Fillette de l'autre côté de la vitre. Il ne nous reste plus de temps. À demain, chers amis auditeurs.